Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette séance Fabrique des films. La Fabrique des films, en fait, c'est un rendez-vous régulier organisé par la Cinémathèque du documentaire à la BPI qui propose une double séance. Donc vous pouvez rester pour la séance suivante à 20h. Une double séance qui d'abord engage une discussion avec un ou une professionnelle avec un projet en cours. Et donc la personne aborde des questions au niveau de l'écriture, de la production, et après on voit des réalisations dans un deuxième temps. Donc ce soir il y aura deux courts-métrages projetés à 20h. Un de nos partenaires les plus réguliers est le CNC pour ses séances Fabrique des films. Et en fait, Fabienne Anclos est là pour représenter le CNC ce soir et il nous propose souvent des projets qui sont soutenus par l'aide au développement renforcée du Fonds d'aide à l'innovation. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nora Philippe, qui sera accompagnée par sa productrice, mais à distance. Elle est en visio avec nous ce soir. Estelle Robin-Hugh du Point du jour, les films du Bali Paris. Donc si Estelle peut juste apparaître à l'écran pour voir que tout fonctionne bien. Bonsoir Estelle, et merci d'être avec nous ce soir.
Avec plaisir. Grand plaisir.
Nora Philippe fait des grands saluts. Et donc Fabienne, si c'est possible, simplement de nous présenter un peu le projet de Nora et nous expliquer pourquoi tu l'as choisi ce soir, très brièvement.
Je ne l'ai pas du tout choisi, mais je vais peut-être vous parler du fond qui a aidé ce film, ce projet. Donc ce que tu disais, au service de la création, il y a plusieurs fonds, et notamment un département émergence et diversité, et sur la diversité des formes d'écriture, et notamment le documentaire de création. Et donc c'est un fonds qui aide à plusieurs stades, à l'écriture, au développement et donc ce qu'on appelle le développement renforcé, et qui est très particulier puisqu'il est très adapté à la réalité, à la pratique du cinéma documentaire, qui est qu'on écrit le film également en tournant, en allant faire des repérages et dans un aller-retour constant entre l'écrit et l'image. Et donc le développement renforcé, c'est un fond qui arrive donc après la phase écriture et développement, et qui permet donc d'arriver avec des images de repérage notamment, afin de faire soit un premier tournage, soit un premier montage, dans l'idée d'aller convaincre des diffuseurs, puisque vous le savez peut-être, si vous fréquentez beaucoup la BPI et le cinéma du réel, que le documentaire de création, dès qu'il prend des formes un peu atypiques ou ambitieuses, il est plus difficilement diffusé, et que surtout ces 10 dernières années, c'est vrai que les diffuseurs s'engagent beaucoup plus sur image qu'en amont, avant l'écriture. Et que donc c'est très important de trouver un peu de fond pour à la fois les écrire, repérer et pouvoir présenter des images à des diffuseurs qui vont être les chaînes télé, les distributeurs, qui vont être du coup convaincus par les images qu'ils voient. Donc ce film a été aidé au développement renforcé. Et la ligne éditoriale, si j'ose dire, s'il y en a une, puisque ce n'est pas le CNC qui choisit le film. Le modèle du CNC, c'est vraiment réunir des professionnels, producteurs, réalisateurs, je ne fais pas d'écriture de parole inclusive, mais le cœur y est, cinéastes, bon, bref, voilà, mais aussi des distributeurs, des diffuseurs, des scénaristes, des auteurs, etc. Et ce sont eux qui lisent les projets et qui décident quels projets vont être aidés. Nous, on est là pour être sûr que les orientations et la prise de risque soit le mieux accompagnée possible. Et donc, c'est un fonds qui est connu, donc, comme son nom l'indique, le Fonds d'innovation audiovisuelle documentaire, pour aider justement des projets ambitieux avec des écritures singulières. Et je pense que ce film a été aidé, outre qu'ils l'ont trouvé super, mais que pour le coup, sa vraie grosse spécificité, c'est que c'est un film sur 30 ans. Et que là, pour le coup, il y a vraiment besoin de pouvoir faire des allers-retours entre l'écrit, l'image, etc. Donc le film a été aidé, Marine Coatelem qui gère le fond est là, et Catherine Marliot qui gère le département est là aussi. Il a été aidé en... C'était l'avant-dernière, hein ? Oui, fin 2021, c'est ça. Peut-être...
Du coup, je parle.
Tu dis un mot voilà, du projet.
Donc, merci infiniment voilà, de cette invitation. Et c'est trop... Oui. Voilà, je suis dans la lumière et je parle à la salle. Voilà, j'avais envie de remercier mes interlocutrices en tant que personne et en tant qu'institution, parce que c'est une occasion de parler du projet qui est rare, qui est très précieuse pour moi, parce que en fait je parle très souvent du projet, mais je dois en parler dans des contextes qui sont plutôt de production, en fait des contextes qu'on dit, pour utiliser un terme un peu trop large, un peu caricatural, mais des contextes commerciaux, en fait, et souvent des contextes anglophones. Donc je suis très à l'aise pour parler de ce projet en anglais. Il est anglophone de manière intrinsèque, mais c'est presque troublant pour moi, et en tout cas très fertile, de revenir à ma langue maternelle pour parler de ce projet. Voilà. Et certes, Fabienne Enclos n'a pas, enfin le CNC ni Fabienne Enclos n'ont choisi ce projet, mais je trouve que c'est un geste très fort en fait en faveur de la création et du documentaire que la BPI et le CNC voilà, se réunissent et puissent offrir à des auteurs et des autrices de documentaires ces moments qui sont des moments de, voilà, évidemment de partage mais aussi de réflexion et puis on prend des risques en fait quand on montre force, enfin quand on montre des rushs ou un projet en cours. On se révèle beaucoup, y compris dans ces, voilà, dans ces fragilités, puis dans ces méthodes de travail, ou non-méthodes parfois. Voilà, donc c'est un moment très précieux. Donc merci beaucoup. Et moi, en tant qu'étudiante, j'aurais beaucoup aimé, parce qu'on est toujours extrêmement admiratif, ou on peut aimer ou détester des films, mais en tout cas, on ne voit toujours que en tant qu'étudiante de cinéma, je ne voyais que des résultats finis. Je pouvais lire aussi des scénarios, mais je ne savais pas ce qui se passait entre l'écrit et le film que je voyais sur un écran. Donc voilà, ces moments sur la fabrique sont peuvent être éloquents et formateurs. Voilà. Donc merci beaucoup. Et sur le projet, donc c'est un titre de travail, Girls of Tomorrow. Maintenant j'ai une autre idée, mais j'ai encore un petit peu de temps avant de statuer sur le titre définitif. Donc il s'agit en fait de plusieurs films, mais en tout cas je vais réaliser, enfin terminer un film par décennie en suivant les mêmes personnes, les mêmes protagonistes sur cette période-là, donc de 2015 à peu près 2045. Ça fait effectivement 30 ans, donc là on est déjà à peu près quasiment, à l'horizon en fait le premier film et donc un premier tiers du travail. Et il s'agit donc de quatre jeunes femmes que j'ai rencontrées en 2015 en ayant en fait pour projet premier de tourner un film sur à peu près une année universitaire dans une université qui est réservée aux femmes, une université féministe très connue aux États-Unis qui s'appelle Barnard College, qui est l'université pour femmes, entre guillemets, attachée ou accolée à Columbia University, qu'on connaît la plupart du temps depuis la France et depuis l'Europe. On connaît beaucoup moins Barnard College. Et je connaissais en fait cette institution depuis que j'avais eu une bourse pour étudier, donc non pas à Barnard, mais à NYU, qui est un peu la rivale, 10 ans avant 2015. Donc. Et en fait, cette université me fascinait complètement, parce que moi, dans mon logiciel bien français et bien républicain, en fait, une école non mixte, c'est forcément une école qui pratique un projet soit rétrograde, soit religieux, soit traditionnaliste. En tout cas, voilà, pour moi, dans ma formation, voilà, je me suis totalement départie de cette vision-là. Hein, et puis, ça fait même très longtemps que je m'en suis départie. Mais en tout cas, au début, j'étais très intriguée par ce projet institutionnel et pédagogique. Et puis voilà, donc j'ai eu la possibilité de m'installer à New York en 2015 et j'ai pu commencer à fréquenter le campus, donc qui est dans New York, dans Manhattan, et j'ai rencontré des jeunes femmes des personnes qui enseignent, personnel administratif, et puis aussi des jeunes femmes qui étudient à Barnard. Et en fait mon projet d'abord était j'ai été très vraiment formée intellectuellement et cinématographiquement en visionnant les films de Frederick Wiseman, dont vous connaissez peut-être les films, et qui sont très bien distribués en France. Il a d'ailleurs un pied à Paris. Il est maintenant dans son grand âge. Il a commencé à faire des films à la fin des années 50 en étant prof de droit à Yale. Et à un moment, en fait, il avait... C'est très frappant, en fait, cette connexion entre l'enseignement, le droit, en fait, il enseignait le droit, et le cinéma chez Frederick Wiseman, et le son. Dans son cursus d'enseignement, en fait, il se faisait fort d'emmener ses étudiantes et ses étudiants visiter des prisons. Vous allez être avocat, vous allez être magistrat, vous allez œuvrer pour le droit dans ce pays. Vous devez aller voir ce que c'est qu'une prison, ce que c'est que l'industrie carcérale aux États-Unis. Et en fait, une fois dans les prisons, il s'est rendu compte qu'il fallait filmer. En fait, il fallait faire des films. Et ça passait par l'écoute notamment. Et donc, il a assez rapidement commencé à faire des films, alors qu'il était prof donc de droit à Yale, si je ne m'abuse. Et sur ses propres films qu'il réalisait, il faisait le son il a toujours en fait maintenu ce double rôle-là de faire ses films et d'être dans une relation à ses personnages par l'écoute, par l'oreille. Et donc, j'étais absolument passionnée des films de Wiseman. C'est un peu lui qui m'a convaincue de me détourner des lettres et de l'histoire des arts et de faire du documentaire. Et Wiseman a fait un très beau film sur Berkeley, sur la New York Public Library aussi. Il s'intéresse à ces institutions publiques résistantes aux États-Unis. Et son film sur Berkeley est absolument extraordinaire. Il se place du côté plutôt de l'institution, hein, pas du tout des étudiantes et étudiants, pas du tout de ce qui se passe sur le campus, mais plutôt vraiment de la machine universitaire. Et c'est un très beau film sur ce que c'est que un projet d'université publique aux États-Unis, sur ce que c'est qu'un commun, en fait. Et donc j'avais ça en tête, en fait. Je voulais faire un film Wisemanien, mais sur Barnard College. Et je vais juste faire une incise, parce que ça me permettra de parler ensuite de ma méthode sur ce film-là, sur la question du temps et de la durée. Mon film, j'ai réussi, alors c'est pas très très vendeur, et ça l'est de moins en moins, en fait, les films en immersion. C'est très compliqué de les réaliser, parce qu'évidemment ça prend énormément de temps, enfin par définition. Et puis pour le coup, les diffuseurs, je sais pas qui est dans la salle, parce que j'ai la lumière vers moi, donc je sais pas s'il y a des gens dont c'est le métier de sélectionner, d'accompagner, d'acheter des films pour Arte, France Télévisions, etc. Donc vous pourrez bien sûr me contredire à la fin de cette séance si vous êtes là. L'immersion pure fait un peu peur désormais. C'est comme si finalement le propos se diluait, qu'on ne sentait pas assez le point de vue de la personne qui réalise, on ne savait pas exactement ce qu'on nous raconte, qu'il n'y a pas assez de contenu, qu'il n'y a pas assez de messages, qu'on ne prend pas le spectateur, je cite, par la main, etc. etc. Et pourtant, enfin, l'un de mes premiers films que j'ai réussi en quelque sorte à faire sur cette ligne-là, en fait, d'immersion dans une institution en me plaçant de l'autre côté du guichet, c'est-à-dire sur la machine, en l'occurrence administrative, c'était le film Pôle emploi ne quittait pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc voilà. Donc ça c'est des essais d'affiches. J'aime bien montrer le. Donc voilà, je joue le jeu du work in progress, donc qui est sorti en 2014. Ah, merci. Ah ben, je suis très contente. Merci beaucoup. Et il continue. Merci. Et il continue d'être visible sur Univers Ciné. Et puis après, il y a d'autres images. Donc ça, c'était un autre des protagonistes. Voilà, ça, c'est ma passion pour l'archive. Donc en fait, ils avaient des protocoles d'archivage extrêmement curieux, très, très abondants. Et donc, ils se perdaient dans leurs propres archivages. Et puis, ils avaient parfois, pour traiter le dossier de quelqu'un, enfin, c'est comme la CAF ou la retraite. En fait, il faut replonger des décennies en arrière. Et donc, ils n'avaient pas accès au dossier des gens. Et puis ça, c'est aussi le work in progress. Cette autre image, c'est donc l'ingé son. Moi, je faisais pas le son sur ce, quoique, enfin, j'ai un retour son, mais c'est Mathieu Perrault qui était l'ingé son du film, et c'est moi là à droite. Et en fait, pendant nos pauses déjeuner de tournage, ben en fait, comme on était intermittent du spectacle, on s'actualisait parce qu'en fait, par téléphone, dans l'agence Pôle Emploi où on filmait à Livry-Gargan dans le 93, parce qu'en fait, on avait des problèmes avec la production, donc on n'était pas payé en fait sur ce film. Je l'ai quasiment jamais été sur ce film qui a duré 3 ans. Et donc, on dépendait d'autant plus des allocations de Pôle emploi. Et donc, évidemment, il était vital de s'actualiser, de faire le nécessaire pendant nos moments de pause, mais depuis l'agence même où on tournait, depuis même notre tournage. Voilà. Ce n'est pas mis en scène, c'est vraiment un moment où on tape le 39-49. Voilà.
Et Nora, comment tu passes d'une volonté de filmer une institution comme ce qu'a pu faire Wiseman, comme tu as fait dans Pôle emploi ne quittez pas, à justement t'intéresser plus spécifiquement à quelques personnes.
Alors, c'est parce qu'en fait, finalement, ça n'a pas été possible d'avoir accès à tout ce que je voulais filmer à Barnard College, d'avoir un accès total en fait à l'institution. Il est vrai que donc on était à l'automne 2015, je débarquais un peu freshly off the boat, comme on dit à New York, je débarquais du bateau et en fait il y a des enjeux en fait financiers de corporations quand même extrêmement lourds en fait dans des diversités d'élite comme celle-là, et donc j'ai fait campagne, hein, je suis allée voir beaucoup de gens de Barnard, des gens qui ont de l'influence, mais quand je me suis retrouvée dans cette salle de réunion avec une table en acajou de 17 mètres de long et que j'ai dit que je voulais avoir accès à tout pendant un an et qu'ils ne me situaient pas vraiment beaucoup, ils m'ont dit en fait ça ne va pas être possible. Donc je ne pouvais pas en fait faire ce wise man at Barnard College, et en fait c'était très bien, en fait il ne fallait pas que je fasse ça. Et donc pour préparer en fait ce pitch entre guillemets auprès de l'administration de Barnard, et pour mieux cerner mon projet, pour mieux l'écrire, parce que j'étais aussi en phase d'écriture, tout ça a été concomitant, repérage, conception, écriture.
Et tu étais toute seule sans producteur?
Et j'étais à l'époque j'étais avec Gloria Film, avec Maud Huyn, qui est une productrice de documentaires émérite, qui continue de produire mais dans une autre structure, j'y reviendrai, mais sur place. Et puis on était vraiment c'était l'embryon, quoi, donc c'était à moi de fournir le concept du film, de rédiger le premier synopsis, etc. Et donc j'avais rencontré beaucoup 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 d'étudiantes. Alors là aussi j'étais très troublée parce qu'elles n'avaient pas du tout, moi j'avais quand même beaucoup de temps quand j'étais étudiante, elles n'avaient pas de temps du tout, c'était vraiment minuté. C'est très très intéressant, c'est là, ce rapport au temps. Et mais elles étaient toutes plus fascinantes, intelligentes, bouleversantes les unes que les autres. Et surtout aussi j'avais peut-être un peu peur d'un certain profil ou une uniformité en fait des étudiantes de Barnard College, et pas du tout en fait. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait des trajectoires, des parcours, des identités qui étaient vraiment vraiment très 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 diverses, et que là aussi ça a déjoué absolument toutes mes grilles de lecture française en fait. C'est impossible en fait un lieu comme ça en France, c'est juste impossible. Et certaines en fait se sont distinguées par leur souhait, par leurs besoins et par leur volonté de mettre en mots ce qu'elles étaient, voilà, et ce qu'elles vivaient, et la manière dont elles se projetaient dans la vie, dans leur avenir, etc. Et donc elles étaient elles-mêmes dans un processus de recherche dont elles n'avaient pas forcément conscience, mais qui s'est aussi, qui s'est révélé ou qui s'est manifesté par le processus des interviews, des entretiens. Et ce désir de chercher les mots, ensemble, de faire de l'entretien filmé, je ne l'avais pas forcément moi-même en fait identifié chez moi, et il s'est révélé aussi. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'est passé dans ces moments d'entretien qui était extrêmement fort, et qu'il fallait que je reçoive aussi. Il fallait que je sois à la hauteur de ce qu'elle me confiait en fait, et de ce qui se jouait dans ces moments d'entretien.
Et à ce moment-là, tu es déjà dans une perspective de tourner sur un temps long?
Non, pas du tout. En fait, ça a mis beaucoup de temps à l'officialiser et l'assumer vis-à-vis de la production, vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'elle. Selon différentes temporalités, moi, ça a pris quelques mois pour moi, mais vis-à-vis des jeunes femmes, je crois que je n'en ai pas parlé avant un peu de temps. Et puis vis-à-vis de l'assumer aussi vis-à-vis d'une production, ça a pris encore plus de temps. Mais donc, en fait, grâce à l'intervention providentielle de la directrice de la Maison française à Columbia, Shani Pierre, c'est très beau, la Maison française, c'est l'un des lieux des départements des études françaises, c'est le lieu, c'est comme une sorte de village en fait, le campus de Columbia. Chaque entité a son économie d'ailleurs et son building. Et c'est l'ancien asile, montrer aussi que voilà, donner des crédits à ma démarche auprès de Barnard et pour trouver des partenaires américains pour le projet des Girls. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé assez naturellement, et donc le projet a été mis un tout petit peu en suspens. Et c'est uniquement en 2019 où j'ai eu une intervention assez incroyable de la Providence, parce que c'était une nouvelle qui est vraiment un peu tombée du ciel, j'avais candidaté, hein, j'avais monté un dossier, et donc j'ai eu une bourse de l'Institute for Ideas and Imagination qui dépend donc de Columbia University, mais à Paris, donc qui est complètement indépendant, c'est une commission indépendante, ce n'est pas Columbia qui décide, ça n'a rien à voir, parce qu'en plus il y a aussi des formes de rivalité qui peuvent exister entre Columbia et Barnard, mais donc là c'est un institut basé à Paris, donc c'est indépendant, mais donc qui a aidé le projet, voilà. avec une bourse et donc qui m'a permis en fait de reprendre tous mes rushs et de faire une première phase de réécrire des choses et de faire une grande première phase de montage à partir de quasiment 200 heures de rush, en fait, voilà. Et de reprendre contact. Et donc là, tout est là, c'est la question toujours de la relation, de ce qu'on fait, de ce qu'on promet à ses protagonistes, de reprendre contact avec Laila, Anta, Evie et Talia, et de leur dire, c'est bon, en fait, ça y est. En fait, ce dont on rêvait, je vais d'ailleurs répondre à ta question parce que je n'y ai pas répondu directement, ce dont je rêvais, c'est-à-dire de continuer, en fait, sur un temps long à tourner ensemble, va être possible. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir monter quelque chose, je vais pouvoir vous le montrer, et je vais pouvoir revenir. Après, c'était mars 2020, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais... Dans ma relation à elle, j'avais enfin des personnes. En fait, j'avais honte, mais c'est ma névrose personnelle. Mais j'avais un peu honte en fait de les laisser tomber. Enfin, il y avait quelque chose. J'avais pas de perspective à leur donner, et je me sentais mal parce qu'on avait initié quelque chose de très profond où on s'était fait confiance. Et puis là, ça voilà, je savais pas quoi leur dire en fait. Bon, après, je les faisais rigoler avec mes récits des diffuseurs, voilà, soixantenaires qui avaient un petit peu de mal avec le projet. Ça les faisait rire.
Là, t'avais déjà choisi 4 personnages.
Voilà. Donc oui, en fait, elle, ça s'est consolidé en 2017. Donc on s'est toutes quittées. Lorsque j'ai quitté New York à la fin, vous allez peut-être vous embrouiller un peu dans la chronologie, mais c'est pas grave, on s'en fiche de la chronologie dans le détail. Mais donc à un moment j'ai quitté, c'était planifié, j'ai quitté New York et on a fini notre phase première d'entretien. On s'est quitté en se disant ce serait vraiment vraiment génial de continuer tant qu'on peut en fait et longtemps, de se voir entre guillemets grandir et vieillir avec ce projet. On se l'est dit, on le voulait. C'était elle-même. En fait, elle prenait la caméra et le dispositif de tournage comme une surface de rebond. Elle se disait à elle-même ou à moi, et c'était dans un même mouvement, je suis curieuse de savoir ce que je te dirai là-dessus dans 5 ans et dans 10 ans. Voilà. Et ça revenait très 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 fréquemment, mais vraiment très fréquemment. Donc du coup, je le saisissais au vol. Et moi-même, les questions que je posais à l'époque, oui, je vous ai pas parlé du rapport au temps et à la durée. Les questions que je leur posais à l'époque partaient moi de ma propre expérience, qui était que j'avais une petite fille d'à peine un an et que je ne pouvais plus, en l'occurrence, c'était congruent avec moi en tant que réalisatrice, je ne pouvais plus tourner, je ne pouvais plus faire mes films, je ne pouvais plus envisager mon travail de réalisatrice comme avant. Pôle emploi ne quittait pas, on m'appelait, je pouvais être là 2 heures plus tard ou tourner pendant un an ou quasiment sans être payée. Voilà. Là, c'était ok, tu me donnes 5 semaines de préavis et je vais peut-être pouvoir me libérer un soir. Ça n'avait plus rien à voir. Mon corps aussi était épuisé. J'étais un corps filmant avec enfant, avec bébé, quoi. Donc ça, ce rapport au temps. Et du coup, donc moi, ma seule, elle a à titre purement personnel, en fait, pas en tant que réalisatrice, ma seule consolation à ce moment-là, en tant que ne pouvant plus tourner, quasiment, en fait, ce sentiment en fait d'impuissance, de non-disponibilité, de d'aliénation, littéralement, du fait que je n'avais plus de temps, plus la santé, plus rien, en fait, c'était de me projeter dans le temps. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et ça, j'entends pas beaucoup de réalisatrices en parler, parce qu'il n'y a pas d'espace public pour ça, vraiment. Et ça, donc, je me fais fort d'en parler, de le théoriser, d'en parler très pratiquement. C'est que, et ça, je l'ai partagé avec elle, je l'ai partagé avec les filles. Voilà. Moi, je peux pas vous rejoindre demain parce que ma fille, elle est malade, parce que j'en peux plus, parce que je dors pas, parce qu'elle fait ses dents, bon, etc. Mais je vous promets d'être là encore dans 10 ans. Mais c'était vraiment ça, en fait. Et c'était très beau parce que ça, voilà, ça scellait un pacte. Et ça, et cette réalité-là que je partageais leur permettait à elles de se reconnecter avec la maternité de leur mère et les généalogies de femmes. Ça, c'était très beau aussi dans les entretiens. C'était très présent. Ce que leur mère avait été en tant que mère, la maternité dans laquelle elle se projetait ou pas, quel type de maternité. Ça a été très présent tout de suite. Voilà.
On en parlait un peu l'autre jour, mais ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que souvent on se dit qu'en documentaire, l'interview face caméra, c'est comme tu dis, des talking heads, etc., etc., et qu'en fait, il y a tellement de façons de travailler les entretiens et de ce que ça donne au final, et que là, il y a une écriture très particulière d'adresse à plusieurs personnes en même temps, c'est-à-dire que l'adresse à toi au film, l'adresse à leur futur potentiel, à leur futur moi, l'adresse à passé, qu'est-ce qu'a été ma mère, etc. Et que donc ça, j'imagine que, enfin, tu en parles comme si voilà, t'arrives et tu poses des... Mais tu vois, c'est quand même une écriture très très particulière et que du coup, la richesse de l'entretien. Elle donne une écriture très spécifique en fait.
Oui, absolument. Et en fait, ça, et je me suis rendu compte là, donc maintenant, grâce à l'aide au développement renforcé, j'ai pu retourner aux États-Unis il y a un mois et demi. Et j'ai finalement, en fait, pour la première fois, faites-moi penser au rush qu'elles m'ont envoyé, parce que c'est ça qui s'est passé en 2017. Mais donc j'y reviendrai. Pour la première fois, j'ai pu être, quasiment, je l'avais fait un peu avec Anta à Paris, mais j'ai pu être dans un dispositif entre guillemets lourd de tournage. Donc où on pense au décor, où on met de la lumière, où on est trois, il y a une ingé son et une chef-op, on a du matériel, il y a des caisses et des fly partout. Mais en fait, la relation est telle que maintenant, en fait, ça c'est invisible pour elle et pour nous. Enfin, pas au début parce que c'est intimidant, mais très rapidement ça passe. Mais j'aurais, ça, je veux dire, je serais arrivée comme ça avec cet équipement-là et ce poids-là, impossible. En fait, au début, impossible. Voilà.
Donc il y a cette partie en effet d'entretien, etc. À quel moment tu décides qu'il y aura autre chose formellement dans le film aussi, qu'il y aura d'autres sources d'images, qu'il y aura d'autres. Et la deuxième question. Est-ce que d'emblée, tu le situes, parce que là, on a l'impression que c'est très personnel, en même temps, ça parle de féminisme, etc., donc ça parle de l'histoire des États-Unis, et qui se dit, on va aussi voir un pays en pleine évolution. Et ça, c'est d'emblée très présent pour toi. C'est dans les premières écritures, c'est aussi le rapport à l'histoire avec un grand H, pour faire basique.
Oui. Oui, ça arrivait assez rapidement et c'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais continuer à filmer dans le temps. C'est que l'une des protagonistes, Evie, malgré sa modestie absolue, et puis moi au début j'étais assez incapable de comprendre exactement en fait, ce qu'elle faisait parce que c'était très technique. En fait, elle dirigeait une association sur le campus, enfin un groupement d'étudiantes qui était en plus tout petit, qui luttait en fait pour le divestment from fossil fuels, donc le fait qu'en fait en gros que les fonds d'investissement, enfin l'appareil financier de l'université qui est considérable, hein, enfin on est dans l'industrie capitaliste des universités américaines, cesse en fait d'investir et de mettre de l'argent dans les entreprises écocides, disons notamment du pétrole. Et il se trouve qu'à la faveur d'une campagne extraordinaire, en fait, elles ont obtenu du board of trustees et du board, des structures de décision de Barnard, qu'effectivement, en fait, le fonds en fait opère en fait ce divestment, ce qui est en fait absolument considérable. Et elles m'ont raconté, enfin, je l'ai dans les rushs, que tous les banquiers, donc enfin, c'est des gens voilà qui pèsent beaucoup beaucoup dans la finance à Manhattan, donc en fait aux États-Unis, leur avait dit, vous en savez plus que nous, vous nous avez convaincus, on vous suit. C'est vraiment pas rien. Et donc je me suis dit, allez, en fait, ok, donc Evie, quoi qu'elle fasse, de toute façon, elle va marquer en fait elle va marquer l'histoire, quelle que soit l'échelle qu'elle choisit, mais elle va occuper un rôle public en fait. C'était évident. Et puis après, il y a eu, donc là aussi, vous allez voir le film tout à l'heure à 20h, il y a eu la Women's March, il y a eu l'élection de Trump. Et il y a eu la Women's March et ça s'est décidé à peu près 10 jours avant l'événement, mais elles ont effectivement décidé d'aller à Washington, donc le lendemain de l'investiture de Trump, et de marcher. Et ça, il fallait que je sois là. Et pour moi aussi, c'était un moment historique. Clairement, c'était un moment historique pour des millions de gens. En fait, donc il y a eu des marches dans tous les États-Unis, puis même en dehors des États-Unis. Et de les inscrire, c'était miraculeux. Enfin, en fait, j'étais seule. Enfin, j'avais un système. J'avais accroché mon monopode à ma ceinture. Enfin, j'étais partie. J'étais un peu sous-équipée. Puis d'ailleurs, dans la foule, en fait, j'ai perdu la moitié de mon matériel. Donc j'avais en fait un monopode qui était accroché à ma ceinture. Donc je filmais. Puis j'avais des HF. En fait, je les parce qu'il n'y avait pas de réseau quand il y a un demi-million de personnes dans une ville, je pouvais pas appeler les gens. Donc en fait, je les suivais avec un micro HF. Je voyais à peu près où elles étaient et je filmais. Et puis j'avais un retour. Enfin, c'était très artisanal. Et donc de pouvoir filmer en fait ce moment-là, de pouvoir les filmer elles, que leur que cet événement, en fait, qui est l'inscription de leur corps et de leur être dans cet événement-là, dans la ville, ce jour-là, le 21 janvier, était extraordinaire. En fait, ça faisait évidemment vraiment sens, et pour elle, et puis tout d'un coup, pour le film, c'était une séquence historique incroyable. Donc là aussi, c'est voilà, le film nourrit le film, nourrit le film, nourrit le film. Cette séquence-là, obligée aussi à tenir, tenir le rythme et à continuer en fait à les accompagner dès lors qu'elle participait à des événements de ce type-là. J'ai filmé Anta. Alors elle était à Paris aussi. Donc j'ai filmé Anta dans des manifs anti-Trump à Paris, devant la Tour Eiffel. Enfin, voilà.
Peut-être qu'il faudrait qu'on les voie, non les...
Et je rappelle juste qu'Estelle est avec nous et qu'il faudra aussi simplement... on peut lancer le trailer ?
Les mêmes questions que vous avez posées, mais peut-être à Estelle, du point de vue de la production, comment on accompagne. C'est au moment moi, où j'ai eu la bourse américaine que j'ai pu reprendre le projet et que j'ai commencé à chercher une productrice et que j'ai rencontré Estelle. Et je pense que maintenant, c'est important de l'entendre sur sa méthode, où elle en est. Et puis ensuite, on montrera le teaser, qui est effectivement le résultat de notre travail et qu'on a présenté récemment à Copenhague, à CPH Docs. Voilà, si Estelle est tout. Toujours là. Oui, Estelle est là.
Bon. Ouais, je vous trouve bien courageux de passer à moi, mais sans avoir encore rencontré les girls. Alors déjà, je voudrais deux petites précisions. Je vous appelle d'un hôtel au Luxembourg. Je suis désolée de ne pas être avec vous, mais si je suis dans cet hôtel au Luxembourg, c'est que je suis en train d'être formée. Les producteurs et productrices font aussi des formations. Et là, en l'occurrence, c'est pour parler de la pérennité de l'entreprise. Et je pense que c'est un sujet très important, particulièrement quand on s'engage sur des projets qui sont censés faire la durée de celui-ci. Il faut être sûr qu'on sera encore là demain. Et puis, à dire combien d'hériter, en quelque sorte, de cet objet précieux. Après que mon amie Maud Wynn ait accompagné Nora pendant quelques années, comment dire, renforce encore plus le sentiment de grande responsabilité que j'ai sur ce projet. Et donc voilà, je suis vraiment très, très heureuse d'être aux côtés de Nora, bien sûr. Par où commencer ? C'est vrai que quand on accompagne un projet, souvent c'est assez tôt, mais assez tôt, ça peut être après 6 mois, mais ça peut être après 1 an, 2 ans, 3 ans. Les auteurs, autrices viennent nous voir avec un besoin d'être accompagnés à partir d'un certain moment, mais en général, il y a quand même tout un travail qui a été fait. Parfois, les demandes d'aide à l'écriture ont été déjà déposées par l'auteur ou l'autrice. Donc là, c'est le cas avec Nora, mais c'est même un cas multiplié par 7, puisque c'est 6 années. Je pense que ça fait à peu près 1 an qu'on travaille ensemble avec Nora. Et la particularité de ce projet, c'est comment est-ce qu'on va alterner, on va dire, différentes étapes de développement et de production. Et là, on arrive vraiment à un moment charnière entre le premier film et le deuxième film, sachant que le premier film est toujours en développement, puisque pour l'instant, il n'y a aucune levée de fonds de production qui n'ont été faits. Donc, en effet, le développement renforcé est une étape assez, assez costaud et très, très constructive à ce stade, puisque ça permet à la fois à Nora de tourner aux États-Unis et à la fois à notre équipe de production, que je voudrais remercier, de l'accompagner aussi sur l'organisation de ces tournages, bien sûr avec Cécile Baudenès et l'Ingesson, comme tu dis, Nora. Il y a un certain nombre d'aides au développement qu'on peut aller chercher à ce stade. J'en ai tenté une récemment et j'aimerais faire une toute petite aparté là-dessus parce que malheureusement, nous n'avons pas été soutenus par notre fonds régional des Pays de la Loire en développement sur ce projet. J'ai pas très bien compris pourquoi. Mais voilà, alors qu'on est soutenu par le CNC, le développement renforcé, qu'on est sélectionné dans un pitch extrêmement prestigieux à Copenhague, et bien pour autant, on a encore un petit peu des revers et des montagnes à gravir, où on reprend quelques étages au-dessous. Donc, il s'agit donc d'aller chercher à la fois des fonds en développement sur une écriture qui est déjà très riche, mais qui en même temps nécessite assez constamment d'être remise à jour. C'est toute la difficulté de ce genre de projet qui ne sont absolument pas scellés dans le marbre et donc qui demande à Nora de remettre à jour les trajectoires des personnages, notamment, pas tant son intention, puisque l'intention, vous l'aurez compris, elle est quand même extrêmement forte, extrêmement ancrée, mais les trajectoires des personnages font partie de ce qu'aujourd'hui on nous demande de vraiment définir Et à partir de ces trajectoires de personnages, et on s'en est rendu compte à CPH Docs, on peut tirer des fils. Parce que dans les trajectoires de ces personnages, il y a le droit des femmes, il y a la religion, il y a la sexualité, le genre, il y a beaucoup de thématiques. Et donc, nous, en tant que producteurs-productrices, c'est aussi cette thématique-là, entre thématiques, c'est un mot assez générique, mais c'est aussi à partir de là qu'on va pouvoir déterminer où on peut amener le projet, dans quel genre de fond et de quelle manière. Et par ailleurs, c'est vrai que sur Girls of Tomorrow, Nora avait déjà fait des démarches avec Maud, avec Heidi Fleischer aussi aux États-Unis. Elle avait été d'ailleurs soutenue par un organisme qui s'appelle Women Make Movies et qui vraiment fait la promotion du travail de femmes réalisatrices, qui les distribue, qui les soutient financièrement. Mais à l'époque, je pense que pour pas mal de raisons similaires à ce qu'avait expliqué Nora, ces démarches de financement n'avaient pas vraiment abouti. Et donc moi, j'arrive à un moment où je dis à Nora, c'est sûr que là, il faut te remettre sur la scène internationale sur ce projet-là. Il est extrêmement fort. On n'est plus du tout au même moment qu'il y a 7 ans. Il y a eu MeToo qui est passé par là. Il est beaucoup plus difficile de faire des commentaires comme ceux que Nora avait entendus il y a 6 ans ou il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça passerait quand même relativement mal. Et par ailleurs, il y a un vrai réseau de femmes, de professionnels qui viennent de fond, qui viennent de télé, qui viennent de fondations qui vont vraiment être en soutien de ce genre de projet. Et j'ai proposé à Nora qu'on, voilà, grâce aussi au soutien du CNC, hein, parce que c'est quand même des démarches qui ont un coût, de tenter de le présenter à ce forum où, si tout allait bien, si le Covid ne nous embêtait pas trop, les décideurs, les decision makers d'Europe et des États-Unis allaient converger pour se retrouver enfin physiquement dans un forum où on allait pouvoir proposer, présenter le projet et rencontrer en one-to-one, donc en rendez-vous face à face, des personnes qui pouvaient directement intervenir et soutenir le projet financièrement. Donc, pour aller à ce forum, il a fallu qu'on réécrive un peu le projet de manière complètement condensée, c'est-à-dire que du projet qui a été déposé au CNC renforcé, qui devait faire une bonne quarantaine de pages, je crois, il a fallu qu'on descende à 2 pages, synopsis court, intention courte, présentation des personnages, enfin quelque chose de très efficace, et des images. Donc pour le dépôt du projet avant, pour la sélection au forum, on a pu déposer un montage que Nora avait déjà fait de 20 minutes, où chaque fille s'exprime et où on voit aussi leurs images qu'elles filment elles-mêmes et des moments d'immersion. Moi, ces images-là et aussi le montage qui avait été fait par Nora de 80 minutes avec sa monteuse, c'est des images dans lesquelles je me plonge avec délectation, j'avoue. Je pourrais les écouter pendant des heures. Donc, c'était un peu notre pari, c'était de dire sur ces 20 minutes-là, on espère qu'ils vont vraiment percevoir la force du projet, même si ce n'est pas un montage qui ressemble au film. Et banco, ça a marché, ils ont été très convaincus. On a quand même beaucoup échangé avec l'équipe du forum de CPH Docs. C'est pas juste on envoie l'info et puis après on voit ce qui se passe. On a été beaucoup en contact pour expliquer un peu plus la démarche et notamment de cette idée de 3 films sur 30 ans quand même. Il a lui expliquer qu'il y a un premier film qui va voir le jour en 2024, que celui d'après, ce serait 10 ans et que 10 ans, ça passe vite quand on s'amuse. Donc on a été sélectionné. À partir du moment où on a été sélectionné, c'est pareil, il a fallu préparer les outils pour qu'on puisse pitcher le projet et faire tous ces rendez-vous avec la matière nécessaire. Donc évidemment, le fameux trailer, qui est un exercice un peu imposé par les pitchs, mais aussi maintenant par beaucoup de chaînes de télévision, de fonds. Donc là, c'est un trailer qui est vraiment très formaté, 3 minutes, puisque le pitch est de 7 minutes, avec un trailer de 3 minutes et un pitch oral de Nora et de moi de 4 minutes, puis des questions-réponses de 7 minutes. Donc, c'est vraiment très formaté. Et puis, on a fait un flyer. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si Nora, tu en as apporté. Mais voilà, on a fait un objet papier quand même. Il y a du visuel et puis la version PDF a un lien au trailer. Donc, on avait quand même une matière pour engager un dialogue en direct avec les gens quand on les croisait même finalement à un déjeuner ou à une pause café, et puis ce grand moment de pitch devant je ne sais plus combien de personnes, 150 personnes, où Nora a tout donné. Je ne sais pas si vous voyez son énergie sur scène aujourd'hui, mais vous la multipliez par 15 000. En anglais, et tout ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, elle a réussi à le dire en 3 minutes, je crois. Donc, il y a eu vraiment un très, très grand moment d'énergie, de partage de la passion pour ce projet, qui a débouché sur beaucoup de discussions très, très enthousiastes autour du projet. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je reviens après, donc j'essaie de dire au maximum maintenant
peut-être
aussi.
C'est bien
mais,
voir le trailer.
Oui, merci beaucoup Estelle pour ton intervention, et on va voir le trailer.
Et bah, à bientôt.
Merci Estelle.
Merci beaucoup.
Despite what your parents may have told you, I am here to tell you how imperfect you are.
She'll fly. She'll fly.
Moi, j'avais peut-être une petite question par rapport à ce que vous disiez sur les, justement la recherche de financement et qui ont vraiment à voir avec comment on écrit un dossier documentaire et qu'est-ce que ce lien avec l'écriture, quand on parle de trajectoire des personnages. Est-ce que ça veut dire que quand tu as un scénar de 60 pages, ça veut dire que tu écris des pics scénaristiques, tu es obligé de te projeter sur ce que vont devenir ces filles, comment ça se passe, tu imagines des choses, tu...
Oui, et c'est un exercice qui est très inconfortable à faire parce que vous avez l'impression de parier en fait sur des aléas existentiels. Vendeur en fait, enfin vous avez l'impression de commodifier, enfin de marchandiser en fait des trajectoires de vie, et c'est très compliqué en fait. Et en plus de le rendre public d'une manière ou d'une autre. Enfin, en fait, il faut jamais oublier que quand vous écrivez un scénario, même s'il va uniquement dans 2 commissions, bah, vous êtes lu par vos pairs. Enfin, ça peut être lu par 10-12 personnes qui se souviennent. Enfin, donc c'est vous rendez public des fictions en fait concernant des personnes véritables sur une décennie. Ou plusieurs, donc c'est vraiment pas simple. Donc ce que je fais, ce que j'ai fait, c'est donc évidemment plus les années passaient, plus il y avait une matière qui existait, qui était entre guillemets réelle et qui permettait d'écrire des choses absolument vraies et de dire ensuite d'utiliser en fait du conditionnel et de dire voilà ce qu'elles me disent, voilà ce qu'elles imaginent, voilà ce qu'elles espèrent, voilà ce dans quoi elles se projettent. Mais sans jamais moi ajouter, c'est pas de la probabilité, je peux pas, je parie sur rien du tout. Et de fait, enfin ce que je dis toujours, enfin c'est le maximum que je puisse dire pudiquement, c'est-à-dire en fait je suis toujours surprise. Elles se surprennent elles-mêmes, elles me surprennent, je suis toujours surprise en fait par les nouveaux chapitres en fait qu'elles écrivent de leur propres existences. Donc c'est voilà, mais alors de fait en fait au début, dans la première version, Anta voulait déménager à Paris et elle l'a fait et elle a réalisé un rêve. Elle vit toujours à Paris. J'ai filmé son anniversaire il y a quelques semaines. Mais par exemple, enfin Laïla, on avait de grandes discussions sur le l'athéisme, l'agnosticisme, c'est un anglicisme, sur la laïcité aussi. Elle essayait de comprendre la laïcité à la française, etc. Et avec Laïla, qui finalement en fait est en train de devenir bouddhiste et a repris des études pour être Buddhist chaplain, donc une aumônière bouddhiste en fait dans des prisons et des EHPAD. Et je m'y attendais pas du tout, je dois dire. En plus, personne n'est bouddhiste dans sa famille ou autour d'elle, et c'est la voie qu'elle est en train de prendre. C'est celle qui dit, enfin, les temps dans lesquels je vis sont terrifiants. Et que vous allez retrouver ensuite, si on a un tout petit peu de temps, je vous montrerai quelques des rushs cette fois-ci, donc non étalonnés, non mixés. Là, c'est très c'est un teaser en fait. Donc, mais je vous montrerai d'autres choses. En fait, Talia, là aussi, très délicat cette question de. Enfin, à l'époque où on s'est rencontrés, son propos qui était extrêmement argumenté. C'est une fille extrêmement brillante, sensible, charismatique. Elle me disait, enfin moi, mon rôle sur cette terre, c'est de changer, enfin de faire avancer la cause féministe et LGBT à l'intérieur de l'orthodoxie, dans le judaïsme. Je sais très clairement qu'on ne peut pas faire avancer ces causes dans l'orthodoxie en étant en dehors de l'orthodoxie, donc j'y reste. Et je ne m'attendais absolument pas, même si je regardais Unorthodox sur Netflix avec beaucoup d'entrain, mais je ne m'attendais pas du tout et je n'espérais pas qu'elle quitte l'orthodoxie. C'est pourtant ce qu'elle a fait. Voilà. C'est pourtant ce qu'elle a fait. Et donc, ça fait partie de la trajectoire. Donc, maintenant, quand je raconte déjà ces 7 dernières années, ça suffit. Je table sur la capacité des lecteurs et lectrices de se figurer que ça va continuer à l'avenant. Et même chose pour Evie. Evie, c'est finalement la trajectoire la plus linéaire. Mais je crois que le film aussi avait finalement besoin de ça. C'est elle qui a fait de son activisme environnemental son métier. Donc, elle travaille vraiment à ça au Texas. Et elle mène des campagnes pour la dépollution en fait de quartiers noirs complètement ségrégés à Dallas. Donc elle, au contraire, il y a une continuité et c'est très bien aussi pour que on soit pas non plus dans un éclatement des trajectoires. Et par contre, il y a une promesse que Anta s'est faite à elle-même, c'est de retourner en Gambie, donc la patrie littéralement où elle a habité avant la mort de son père quand elle avait 6-7 ans, d'y retourner avant ses 30 ans. Donc voilà. Ça, je le dis, c'est quelque chose que j'écris parce que c'est une promesse qu'elle m'a confiée et qu'elle s'est faite.
Et là, dans le teaser qu'on a vu, on voit aussi que tu inclus les images qu'elle tourne elle-même. Et peut-être que tu vas nous en montrer plus dans les rushs, mais je pense que c'est aussi intéressant d'aborder cette façon aussi que tu as d'inclure leur propre représentation d'elle-même, et pas seulement dans le langage, mais aussi dans l'image, et qu'est-ce que le film change aussi peut-être à la façon pour elles de produire leurs propres images.
Complètement. Ça, je vais faire une première partie de réponse avec des images, du coup. Ce sera plus palpable, plus tangible, avec le moment de 2 minutes 30 à peu près de Laila, Montana, Alaska, chasse. Donc là aussi, soyez indulgents, non mixés, non étalonnés.
En attendant que ça arrive. Ah voilà.
Donc ça, c'est un montage qui est fait à partir de rush que Laila m'a envoyé. Je lui avais donné une caméra, elle avait 2 cartes SD, elle a voulu, et donc elle ne les a pas déchargées parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas les décharger, et elle avait peu de batterie, donc en fait pendant 2 mois dans un voyage en Alaska, elle a juste en fait rempli ses cartes SD, elle ne les a pas déchargées, elle ne les a pas visionnées, et elle me les a données quand on s'est vus à New York.
Et avant que tu leur donnes ça, est-ce que, parce qu'il y a quasi des moments où on se dit que c'est le fait que le projet soit sur une longue durée et que d'emblée elles étaient désireuses du projet, etc., qui a presque au final, c'est peut-être pas le bon mot, mais une écriture collective qui se met en place. Et du coup, puisque tu n'es pas en immersion et pourtant on voit qu'il y a des moments d'immersion, puis elle se filme elle-même, est-ce que c'est une discussion avant où vous dites il faudrait qu'on aille filmer ça, si tu prends la caméra, qu'est-ce que tu as envie d'aller filmer, est-ce que ça participe comme ça?
Et oui, bien sûr. Donc, plein de choses. J'oublie pas les questions. Donc, Laila fait de la photo, et elle fait de la photo argentique. Donc, déjà, elle a un œil, elle aime produire de l'image. Et puis en fait c'était expérimental. Enfin, quand je lui ai donné la caméra, je savais pas du tout ce qui allait en sortir. Elle non plus me dit toujours on va essayer des choses. Puis de fait, elle faisait des prises par exemple sur un ours. Pendant, j'ai une heure de rush sur juste un ours. Enfin, voilà, et c'est génial. Enfin, mais c'est ouais.
Mais tu lui donnes la caméra parce qu'il y a le Covid, que t'es loin et que tu peux pas filmer.
Non, c'était avant le Covid. C'est parce qu'elle partait en Alaska et qu'on pouvait pas voilà et qu'il n'y avait pas encore l'ADR et donc je pouvais pas partir en Alaska avec Laila. mais non, c'est parce qu'elle partait en fait donc il y a comme ça 3 fils. Enfin, la question de voilà notre votre ton féminisme en fait comment il va se transformer au fil des années et confronté à la vie, comment est-ce que vos vies vont évidemment vont agir en fait sur vos convictions, sur votre activisme, etc. et vous êtes disons à peu près la première génération à vivre l'effondrement planétaire, environnemental, donc au sein de votre existence, vous en êtes très consciente, enfin ça vous habite à peu près tous les jours, donc c'est aussi pour ça qu'on travaille sur autant de temps, hein. Je l'ai pas précisé, mais c'est ça. Donc de filmer en Alaska aussi permettait, enfin il y a un côté un peu édénique, enfin c'est magnifique, et en même temps très souvent, enfin elle parle en fait dans la caméra en disant bon, voilà ça c'est des glaciers, bon bah dans quelques années il y en aura plus, enfin voilà c'est vraiment, enfin elle travaille beaucoup autour de cette question de la disparition de notre voilà de nos environnements, et donc La question de l'écriture collective, elle se pose en fait maintenant, où je suis dans quelque chose de finalement, entre guillemets, disons, on pourrait dire plus professionnel, plus avec une équipe, avec une production, etc. Et donc là, et en plus, je ne vis plus aux États-Unis, donc c'est vraiment, j'ai 2 jours, on a 2 jours de tournage, je peux venir à Dallas ou à New York. Quand est-ce que je viens? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça te suggère? Donc, par exemple, dans le cas de Talia, elle m'a dit, je peux faire un Shabbat queer chez moi. Et du coup, je lui ai demandé si elle pouvait inviter Laila, qui est en train de devenir bouddhiste, parce qu'elle fait beaucoup de interfaith work, Talia, avec des femmes chrétiennes, musulmanes, etc. Et du coup, elle m'a dit oui, très bien. Donc, en fait, j'ai la Women's March avait été un précédent où on voyait plusieurs des filles ensemble, mais là dans ce Shabbat queer chez Talia, on voit apparaître Laila et son partenaire. Donc là, il y a tout d'un coup, là aussi c'est l'une des questions, est-ce qu'elles se rencontrent ou pas. Donc oui, parfois leurs trajectoires se croisent, parfois non. Donc là, c'est suscité quoi. Elle m'invite en quelque sorte à être là à tel moment. Donc c'est un peu de l'ordre du pacte et il y a des décisions qui sont communes. Après, donc c'est toute la question aussi de. Je vais au fil des années, je me retrouve entre guillemets propriétaire, dépositaire de Rush, qui je veux dire, c'est la pellicule, une pellicule de leurs existences qui se dépose là. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? En plus, en tant que réalisatrice, c'est compliqué. Les Rush, ça disparaît en fait. Le statut, c'est que c'est possédé par la production. C'est aussi, il y a un droit moral, donc la réalisatrice a le droit aussi de les avoir, mais pas forcément de les utiliser en fait librement. Ça appartient à la production. Dans les cinéastes très connus, y compris en documentaire, sont invités à déposer leurs rushs aussi, donc à la Cinémathèque, à la BNF, au dépôt légal, etc. Ou à l'INA, pas à l'INA, à la BNF. Donc voilà, qu'est-ce qui advient de ces rushs et pour le coup, je ne dirais pas, pour plein de raisons qu'on peut développer si du temps, pour le moment, on n'est pas du tout sur une réalisation qui est partagée, ni un montage qui est partagé, même si je serais, théoriquement et politiquement hyper ouverte, mais pour le coup, concrètement, c'est pas ça, c'est pas leur souhait, voilà. Pour le coup, par contre, pour la propriété des rushs, c'est un vrai sujet. Il y a un moment, et en même temps, en fait, là aussi, il y a énormément de, c'est comme son corps mis à nu, en fait, les rushs. Donc, mais en fait, pour elle aussi. Mais donc, c'est très, même, on monte pas ses rushs à sa production. Enfin, il y a un truc, c'est seulement la monteuse. Enfin, c'est l'intimité de la salle de montage où on voit les rushs ensemble et tout. Donc, que faire de ces rushs? Il y a un moment, et moi qui viens de faire un film quand même sur les restitutions, sur la question, l'impératif moral et éthique et politique de restituer en fait aux personnes filmées. Donc voilà, il faudrait qu'on trouve à un moment la manière de faire ça en fait, c'est sûr.
Et aussi justement dans ce travail sur le temps long et ton rôle de lieu de dépôt de leurs archives, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du droit de regard qu'elles auront sur la façon de monter les films, étant donné qu'il y a des choses qui se passent très en amont et qui peut-être après ne conviennent plus du tout à leur façon de se percevoir?
C'est précisément pour ça que moi, par exemple, je serais incapable de filmer des mineurs, des enfants, parce qu'en fait, ça enferme. J'arriverai pas, en fait. Pour moi, c'est très compliqué. Je dis pas du tout qu'il ne faut pas. J'ai vu des films sur l'enfance absolument fabuleux, mais moi, j'arriverai pas à trouver mon endroit, en fait, et un positionnement. C'est compliqué. Donc, elles, ce sont des adultes en construction qui sont absolument conscientes de ce qu'elles font, de ce qu'elles donnent à la caméra. Il se trouve, c'est une réflexion, je ne vais pas citer le film parce que ce serait l'attaquer frontalement, et puis c'est un film récent. Filmer le trauma, filmer des gens qui sont pris dans leur trauma, je trouve c'est très très compliqué. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Quasiment toutes ces jeunes femmes sont pas, techniquement c'est pas du trauma, enfin pour certaines si, il y a du trauma, qu'elles ont en fait des dépassées pour le coup, et en fait les moments où elles étaient là-dedans, ces moments de leur vie où elles étaient là-dedans, on était vraiment en fait en tension, et moi je trouvais pas l'endroit juste pour filmer, et c'était compliqué. Donc Et c'est des rushs que j'ai pas gardés, en fait. Enfin, que je pourrais pas, voilà, garder. Enfin, ils sont gardés, ils sont archivés, mais. Donc voilà, tout ce que je veux faire, c'est quelque chose effectivement qui est en pleine intelligence, évidemment, en conscience et qui est partagé. C'est vraiment pas ça. Il y a eu des tensions énormes, notamment, enfin, avec Anta, qui à des moments en fait se sentait, enfin, était voilà, complètement, enfin, au niveau, enfin, entre guillemets, conscient, verbalisé pour le projet, qui en comprenait tous les aboutissants, les tenants, les aboutissants, mais qui dans la pratique, avec des journées longues de tournage et tout, au bout d'un moment en fait, se disait, mais c'est complètement intrusif, on n'en peut plus, voilà. Qui après, voilà, revenait sur ses propos, mais il y avait des vraies tensions. Et c'est très, voilà, mais ça aussi, enfin, je veux dire, tous les cinéastes en documentaire ont ce type de récit, ce type d'expérience, c'est absolument classique. Et évidemment, il faut évidemment les prendre en considération, s'adapter. Et le but, c'est jamais le film, c'est de respecter la personne qu'on filme, ce qui est très souvent oublié. Ce qui a pu être souvent oublié. Donc c'est pas le cas. Mais donc c'est la relation, voilà, s'invente et il faut surtout pas être surplombante, etc.
Et aussi sans doute parce que tu cherches pas finalement, que ça soit dans le dossier ou dans les rushs, etc. On n'est jamais dans ah tiens que sont-ils devenus 10 ans plus tard. Ce qui change complètement le. Tu dis pas je vais faire le portrait de. Voilà. Comment t'expliquerais ce que toi tu recherches dans cette.
Eh bien, en fait, et c'est aussi pour ça que c'est important de monter à différentes étapes, parce que c'est trop facile de monter rétrospectivement et de réinventer la narration. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc il s'agit de la même manière que j'ouvre la boîte de la temporalité du tournage. Donc ça veut dire que je dois aussi changer de machine, les technologies changent, enfin, il faut se mettre au défi à chaque fois d'évoluer. Et c'est la même chose pour le montage. Donc je monte au fur et à mesure, sinon, il y a une couleur rétrospective que je ne trouve pas forcément, qui peut être très gratifiante, mais qui n'est pas forcément éthique ou forcément au bon endroit, voilà, je trouve. Donc c'est pour ça qu'il faut. Voilà.
Et du coup, forcément, ce qu'il advient, c'est que ça va être au final aussi un portrait de toi.
Ça, c'était ta question.
Enfin, je veux dire, tu filmeras pas pareil, tu poseras pas les mêmes questions il y a 10 ans, dans 15 ans,
Il y avait une première version du teaser. Je voudrais vous montrer avant, parce que vous allez prendre la parole, enfin, évidemment, si vous le souhaitez, il va y avoir un micro. Je voulais montrer deux extraits de rush tout récent avec Laila sur la question, voilà, de la mise en scène, des moments suscités collectivement. On a fait une première version du teaser où en fait, on entend je lance le projet au début, enfin, j'explique pourquoi je l'ai lancé, dans quelles circonstances sa genèse et comment il a commencé, dans cette cuisine. Dans la maternité, voilà. Et finalement, on l'a pas gardé parce que c'est pas forcément l'écriture du film à venir, c'est-à-dire que ma voix ne va pas scander, voilà, chaque film. J'ai pas complètement abandonné en fait cette option formelle parce qu'elle ancre quelque chose dans une subjectivité et je pense que c'est aussi important. Après, peut-être qu'on pourra s'en passer et que cette subjectivité, elle sera quand même présente, voilà, via le montage. Oui, évidemment. Voilà, on entend ma voix. Enfin, il y a des moments où on garde. En fait, ce qui est intéressant, c'est que au montage, en fait, il suffit de quelques bribes, en fait, soit une amorce, soit ma voix en deux ou trois occurrences à des moments importants. Et en fait, ma présence est là et ça suffit. Voilà. Il y a un autre moment où Evie parle d'un épisode difficile de sa vie d'adolescente et j'ai pas pu m'empêcher, c'est aussi quand c'est spontané que c'est quand même voilà, j'ai pas pu m'empêcher à la fin de son témoignage que j'ai dans ce pré-montage que j'ai fait, on peut pas couper en fait, donc c'est vraiment un long plan en séquence et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire tu sais il m'arrive exactement la même chose quand tu avais 17 ans et en plus elle a rebondi et tu sais ma mère aussi en fait et on a gardé avec ma monteuse donc j'ai travaillé avec Marie Beautois puis initialement aussi avec Anne Souriau, on a gardé ce moment là et tout d'un coup il y avait une spécularité, voilà, la question de spécularité, de réflexivité m'intéresse énormément et de plus en plus je deviens un peu obsédée aussi avec les jeux avec la caméra, mais donc là aussi c'est elle-même en fait spontanément, Laila se filme, enfin le plan sur le bateau à la fin, elle se filme dans une vitre avec la caméra qui reprend en fait un miroir, c'est elle qui a fait ce geste là et évidemment c'est une sorte d'allégorie, disons, plus qu'une métaphore, d'allégorie ou de parabole du geste de ce film aussi. Ce serait bien, on peut regarder. On va regarder. Alors, on va regarder l'extrait de Laila qui visite l'exposition de Jonas Mekas, mais juste une minute trente. On ne va pas regarder en entier, on va juste regarder les premiers plans. Et après, Laila qui danse avec Eliette, s'il vous plaît. Merci. C'est coupé ou pas ? J'avais le sentiment que les images que Laila filmait, même sur son Instagram, en fait, évoquaient Mekas. Et en février dernier, à New York, il y avait une exposition Mekas au Jewish Museum. Et donc, je l'ai invitée à venir voir l'exposition. Elle ne connaissait pas Mekas et je l'ai filmée dans l'exposition. Merci. Je vais terminer avec une chose. Le mouvement que... Donc, ils improvisaient totalement. Que fait Laila et Eliette, des mains, en fait, m'a évoqué au moment du tournage. Donc, évidemment, je travaillerai au montage. On est déjà en train de monter quand on tourne. À un moment d'entretien de Talia, en 2016, où elle me disait « J'ai 23 ans et hier, en fait, dans un cours de danse de Contact Improvisation, j'ai touché la main d'un homme pour la première fois de ma vie. » Et 7 ans plus tard, évidemment, entre Laila et Talia, il y a un écho.
Merci d'avoir partagé ces images et je me demande si dans la salle il y a des questions parce que l'idée c'est aussi de faire en sorte que vous puissiez poser les questions. Alors j'apporte le micro, j'ai vu d'abord une question au fond de la salle et après je viendrai vers vous.
J'ai pas une question, j'ai trois questions. Je voudrais savoir l'âge moyen des jeunes femmes qui sont à l'université.
Pardon, je pensais que vous alliez énumérer les trois. Donc, alors, elles entrent à, je sais pas, c'est 17, ça dépend en fait, parce qu'il y en a qui prennent une année de césure, mais 17, 18, 19, voilà. Et donc, moi, j'ai commencé à tourner avec elles lorsqu'elles avaient toutes 21, 22.
D'accord. Alors, ma deuxième question, si au cours des 30 ans, une personne disparaît, qu'avez-vous imaginé ?
Je n'ai rien imaginé.
Bon, dernière question. Si vous disparaissez, avez-vous prévu quelque chose ? Ah bah sur 30 ans, je suis désolé.
Oui. Alors ça, c'est une blague récurrente de Estelle dans les pitchs. Ça marche très bien. C'est de dire qu'en fait, on a parlé à nos filles et que donc dans son cas, la mienne n'est pas en mesure encore de se prononcer. Mais la sienne, oui, qui donc, est quasiment majeure, de reprendre le projet quoi qu'il arrive. Et on fait beaucoup de blagues dans ces pitchs aussi sur nos assurances vie et sur nos santé très, très solides. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, je crois. Disons que ce qui est intéressant, c'est encore une fois, on a à peu près 13 ans de différence. Donc, elles auront 50 ans en 45. Il faut toujours... l'idée, quand on écrit 2015-2045, c'est de dire une ambition. Rien ne dit que j'arrêterai, en fait, en 45. Rien ne dit que... Donc, pour rebondir aussi, en droit français, en droit à l'image, en fait, une personne... d'ailleurs, c'est life story rights aux États-Unis, etc. Nous, on est en droit français. En fait, une personne ne peut pas... On ne peut pas liciter, en fait, son engagement. On ne peut pas encadrer juridiquement son engagement sur le futur. Ce n'est pas possible. Donc, son engagement est perpétuellement, à tout moment, révocable. De la même manière, ce droit est rétrospectif. Les personnes qui sont filmées signent des droits à l'image, release, à tout moment, y compris lorsque le film est terminé, diffusé, même si la relation s'est très bien passée, etc., elles peuvent décider, elles ont le pouvoir juridique de dire, en fait, ça ne me convient pas, je bloque la diffusion du film. Donc, en fait, quand on fait un film de ce type-là, on est, en tant que réalisatrice, on est extrêmement, et la production est extrêmement, entre guillemets, vulnérable. Ça oblige aussi, effectivement, à une sorte d'éthique irréprochable. Et elles le savent, ça. En fait, je leur ai dit qu'en droit français, elles trouvaient ça complètement fou, en fait. C'est complètement fou. Mais en tout cas, je leur ai dit. Je lui ai dit, donc, en fait, en gros, de toute façon, on peut signer des papiers. En même temps, n'en signons pas forcément parce que ça, voilà. Enfin, de toute façon, sans arrêt, en fait, la relation se rejoue, en fait.
Votre travail est remarquable. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous ne rencontrez pas les mêmes difficultés aux États-Unis et ici ? Parce que le travail des gens qui font du documentaire et du vrai, ils sont très limités ici. Par exemple, je maintiens le Pôle emploi, que j'ai été vraiment... J'avais le même vécu en voyant votre film, mais c'est vraiment... tous ces lieux de entretien entre le chômeur et les administrations, c'est grave. Il fallait que vous soyez un peu plus loin que ça, hein, parce que ça culpabilise les chômeurs et les chômeuses. Vous l'avez bien un peu remarqué, mais c'est tellement à dénoncer. C'est un travail dénoncé ici. Aux États-Unis, on peut passer tout ça, parce qu'on dirait qu'ils sont cool quand ils ont leur wife of life, tandis qu'ici, on dirait qu'ils sont culpabilisés, névrosés, tout, toutes ces femmes. Vous voyez comment c'est. C'est un autre wife of life. Voilà. Est-ce que la comparaison, vous la sentez ou pas? Ou bien vous allez plus loin?
Voilà. Sur Pôle emploi, ne quittez pas, je peux dire une chose, c'est que j'ai remercié l'intermittence du spectacle au générique du film, c'est vrai. Après, je vais rebondir. Enfin, sur la question de la différence culturelle entre les États-Unis et la France, c'est sûr que j'ai affaire. Enfin, sans arrêt, en fait, en faisant des entretiens avec elles lorsqu'elles avaient 20 ans, effectivement, j'étais assez admirative de leur capacité à poser des mots sur leur vie, sur les discriminations, sur le sexisme, etc., etc., sur la société, et une capacité que moi je n'avais pas du tout à leur âge. Voilà. Après aussi, ce qui m'intéressait, j'ai pas eu le temps de développer là-dessus, mais donc vous le savez, enfin le système scolaire qui plus est d'élite aux États-Unis favorise beaucoup la prise de parole, en fait. Donc il y a une capacité que nous on n'a pas en France de parler, de s'exprimer, de parler de soi, de ses motivations, etc. Et elles sont beaucoup plus fortes que, enfin à 20 ans, elles avaient une capacité à, y compris même à parler du projet à leurs copines. Tu sais, cette fille fait ça. Elles arrivaient à synthétiser mon propre projet de manière plus efficace que moi. Et ça, en fait, il fallait, entre guillemets, enfin, j'aime pas forcément le terme, mais entre guillemets, cette facilité-là, il fallait. C'est pas qu'une pellicule, parce que ça fait partie d'elle-même, mais aller au-delà, en fait. Et donc, c'était ça aussi qui s'est passé dans les entretiens et qui était inhabituel pour elle. C'était tout d'un coup d'être à un autre endroit de la parole. Voilà, et ça, c'est sûr qu'il y a des différences culturelles par rapport à ça. Et puis aussi, la difficulté, pendant tout un temps, le film, la perception française du film, c'était que je montrais des héros américaine qui allait nous enseigner la manière dont il faut penser, le féminisme, etc. Donc toujours cet épouvantail, cette névrose toute française sur le wokisme, etc. Donc ça, c'était assez présent dans la lecture française du projet. Et là, je crois que ça y est, c'est passé. Voilà, on est plus.
Disons qu'on a quand même tendance à se dire que la durée implique forcément une sincérité de leur côté comme du tien. Et ce dont on n'a pas du tout parlé, c'est à la fois, là tu as parlé du fait que c'était vulnérable, etc., que tu as une énorme responsabilité, mais que de ce que ça crée sur leur propre vie, de se dire qu'il y a quelqu'un qui va me filmer, ça pousse aussi à être, ça modifie complètement leur vie, parce que moi je me dis, j'aurais envie d'être à la hauteur du film, en fait, et de me dire, si elle revient me filmer dans 5 ans, j'ai quand même envie de pas être complètement dans la loose, et du coup, la relation filmeur-filmé, là, ça influe toujours, évidemment, hein, sur la vie des gens, mais là, on a quelque chose de keep in line, quoi, tu vois,
Bah oui, complètement. Oui. Et c'est aussi pour ça que c'était important de leur montrer à mi-chemin déjà un pré-montage, qu'elles comprennent aussi comment ça résonne de l'une à l'autre. Et puis aussi, elles ont aussi complètement compris. Parce que parfois on filmait des longues séquences de vie, et puis ça, mais j'ai dit ça, je dis, tu sais, en fait, il va y avoir 2 minutes de ces 2 heures qu'on a filmées qui vont rester dans le montage. Et je crois qu'elles ont compris cette sorte de densification que le montage produit. Et aussi mon regard. Donc elles ont vu comment ça circulait d'un personnage à un autre, elles font confiance à mon regard. Mais effectivement, elles m'ont dit à posteriori qu'elles étaient vraiment extrêmement stressées avant de visionner le pré-montage que je leur ai montré. Donc après, ça s'est très bien passé. Chacune a eu des réactions très différentes aussi. C'était très intéressant, très très bien, mais des pleurs, ça a déclenché toutes sortes d'émotions, qui montrent aussi qu'elles étaient à un endroit différent. Mais ça a relancé aussi quelque chose, évidemment. Et j'avais un trac complètement fou en leur montrant aussi, évidemment.
Je trouve ça très intéressant comment vous avez parlé de la relation que vous instaurez dans le cadre du film et des tournages en particulier. Vous avez beaucoup parlé des entretiens notamment. Je me demandais comment ça se passait dans la distance, en sachant que vous ne vous voyez pas littéralement, vous n'êtes pas au même endroit, et qu'il y a eu tout ce temps, j'ai compris 4 ans, entre les premiers tournages et puis le retour un peu. Et là, ça va peut-être se régulariser plus souvent, mais il y a quand même des longues périodes où. Enfin, comment vous maintenez cette relation à distance, en fait, avec quatre personnages ?
Bah, avec chacune, c'est différent, en fait. Et puis, Anta est à Paris, donc ça a pris une autre forme. C'est très différent. Mais maintenant, je leur dis encore. Enfin, pour celles qui sont aux États-Unis, je me dis, je reviens quand j'ai de l'argent, en fait. Je reviens tourner. Enfin, c'est ça. Je dis, OK. Mais du coup, elles sont un peu prises dans la, voilà, dans la pragmatique du tournage. Et donc là, je parle des tournages. Et sinon, on se parle souvent. Voilà. Mais pas non plus très souvent. C'est tout l'enjeu. Est-ce qu'on devient amis avec ces personnages ou pas ? Ça, c'est une grande. Voilà. Mais avec chacune, en fait, c'est selon leur vie et des moments aussi. À des moments, je parlais beaucoup avec Evie, puis après, on s'est littéralement presque un peu perdu de vue. Avec Anta, au contraire, j'ai beaucoup plus tourné parce qu'elle était à Paris. Et puis ensuite, elle a fait sa vie pendant un an. Enfin, en fait, ça, c'est un peu à géométrie variable. Elles savent aussi que j'ai d'autres films, d'autres projets. Mais j'aime bien ça, en fait. C'est pas, voilà, que ce soit pas des amitiés.
Et dans le montage, tu te dis que tu vas avoir une espèce de ligne d'équilibre sur chaque personnage.
Ça, oui. Ça, c'est...
Parce que ce n'est pas un portrait de bande de filles, du coup.
Non.
Du tout.
Non.
Et moi, je me demandais comment elles se sentaient de cohabiter les unes les autres dans une même œuvre.
elles se connaissaient... Enfin, elles s'identifiaient, en fait, à la base. Et puis, là, en voyant le pré-montage que j'ai fini récemment, que je leur ai montré en février, elles étaient OK. Voilà, et touchée par les trajectoires des autres. Là aussi, chacune a des endroits différents. Mais oui, ça marche. Et donc, pour la question des proportions, ça, c'est l'un des défis du montage. C'est un impératif catégorique d'avoir un équilibre. C'est vraiment pas simple. Mais là, déjà, dans ce qu'on a commencé à prémonter, je trouve qu'on réussit quelque chose. Après, c'est la question là qui est complexe, c'est entre guillemets l'absence de linéarité. Puis en fait, moi, ça m'intéresse pas non plus la linéarité. J'adore ce film, mais c'est pas Adolescente de Lifshitz, c'est pas du tout le même dispositif. Parce que voilà, c'est pas seulement deux filles, c'est pas une amitié, donc c'est voilà, on est dans quelque chose de différent. Mais en même temps, en fait, il s'agit pas, par exemple, la graduation ceremony. J'en ai filmé une avec Evie. Je vais pas les filmer toutes en train, voilà. Donc il y a la Women's March, il y en a deux. Et puis voilà, on construit le film se construit comme ça de d'année en année. Et il y a Layla a fait beaucoup de rushs sublimes au Montana pendant le lockdown, et ce sera elle sûrement qui prendra entre guillemets en charge ce moment-là. Et voilà.
Merci beaucoup, Nora. S'il y a une dernière question, on pourra la prendre, mais sinon, je vous invite à la séance de 20h. En tout cas, ce qui est agréable, c'est que c'est un projet qui montre à la fois de la confiance et de l'espoir et de la force, et ça fait du bien.
Merci beaucoup. Merci Marion, merci Fabienne, merci beaucoup. Merci à vous.